VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Le monde aujourd'hui, bonsoir à tous. Abdourahmane Diab pour vous présenter cette édition de 18h30 GMT. On est mardi 21 mars 2017 au sommaire. Nouveau blocage des discussions politiques en République démocratique du Congo. Les négociations butent sur le mode de désignation du Premier ministre. Les Nations Unies s'inquiètent du rapatriement forcé de milliers de réfugiés nigérians du Cameroun. Au Tchad, un comité chargé de trouver une solution à la crise sociale a été mis en place.
J'appelle tous les fonctionnaires, tous les étudiants, afin que tous viennent faire un sitting au niveau de la place de la nation pour que Déby sorte du palais, vienne les rencontrer et qu'ils trouvent une solution.
Nouvelle mesure pour la sécurité aérienne visant certains pays du Moyen-Orient. Après les États-Unis, la Grande-Bretagne interdit certains appareils électroniques en cabine. Ne ratez pas les informations sur l'actualité économique et les sports, mais tout d'abord le journal. En République démocratique du Congo, la CENCO, la Conférence épiscopale nationale du Congo, espère la signature pour lundi prochain d'un compromis sur l'arrangement particulier de l'accord politique. Mais les discussions entre la mouvance présidentielle et l'opposition butent toujours sur le mode de désignation du Premier ministre. Les explications de Walter Kouy de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Pas d'avancée majeure depuis la reprise des travaux une semaine déjà écoulée. Les différents acteurs, notamment Majorité et Rassemblement, continuent de camper chacun sur sa position. Le point d'achoppement étant le mode de désignation du Premier ministre. L'ancienne majorité présidentielle continue d'exiger une liste des trois noms aux dépens de la proposition de la Conférence épiscopale nationale du Congo qui avait proposé que le nouveau leadership du Rassemblement en parle directement avec le chef de l'État pour faire avancer les choses. Le Rassemblement, lui, continue de refuser de donner cette liste de trois noms demandés par le chef de l'État. L'autre point important non encore évacué est celui relatif à la répartition des portefeuilles ministériels. La famille politique du chef de l'État voudrait avoir la mainmise totale sur ses portefeuilles. Une position réfutée par les autres délégations en pourparlers au centre interdiocésain de Kinshasa. Par ailleurs, le vice-président de la Conférence épiscopale nationale du Congo, Monseigneur Fridolin Ambongo, a affiché son optimisme pour annoncer la fin des travaux lundi prochain. Entre-temps, le président de la CENCO, Monseigneur Marcel Outembi, se trouve au siège des Nations Unies à New York où il a été invité pour donner plus d'informations sur ce dialogue censé sortir la RDC de la crise politique. Kinshasa, Walter Nkouy de Top Congo pour VOA Afrique.
Plus de 2600 réfugiés nigérians installés dans le nord du Cameroun par crainte des attaques du groupe djihadiste Boko Haram ont été rapatriés de force depuis le début de l'année. C'est ce que dénonce le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés. Le point avec John Linden.
D'après Babacar Balogh, porte-parole du HCR au Nigeria, les réfugiés qui sont renvoyés de force ont expliqué que les troupes camerounaises les embarquaient contre leur gré sans leur laisser le temps de rassembler leurs affaires. Il a souligné que ces renvois de force sont contraires au droit international. Le HCR s'est dit particulièrement préoccupé par le fait que ces rapatriements forcés, qui semblent être motivés par des questions de sécurité, se poursuivent alors que l'agence de l'ONU a signé le 2 mars avec le Cameroun et le Nigeria un accord pour le retour volontaire des réfugiés nigérians. Le Cameroun héberge environ 85 000 réfugiés nigérians. L'insécurité persiste dans des zones du nord-est du Nigeria et l'accès aux services de base reste limité, a expliqué Babacar Balogh. La crise affectant la région du lac Tchad, que les Nations Unies ont qualifiée de plus grande crise sur le continent africain, avec plus de 2,7 millions de personnes déplacées, donc 200 000 réfugiés.
En Côte d'Ivoire, le procureur au procès de l'ex-première dame Simone Gbagbo, jugée pour crime contre l'humanité, prononcera son réquisitoire lundi prochain en l'absence des avocats de la défense qui, sauf revirement de dernière minute, ne feront pas de plaidoyer. Le président de la cour d'assises a indiqué que le procès se poursuivra sans les avocats commis d'office. Madame Gbagbo, dont la dernière apparition au tribunal remonte à fin novembre, était une nouvelle fois absente ce mardi. Ouverte en mai dernier, le procès est allé de report en report. La chef de l'extrême droite française Marine Le Pen est arrivée ce mardi à N'Djamena pour une visite au Tchad au cours de laquelle elle doit rencontrer le président Idriss Déby Itno. Madame Le Pen devait se rendre dans l'après-midi à Amdjaras, à 900 km au nord-est de N'Djamena, où se trouve la résidence familiale de Idriss Déby, un des principaux alliés de Paris en Afrique dans la lutte contre les djihadistes. Demain, la présidente du Front National doit rencontrer les militaires français de l'opération Barkhane qui combattent les groupes djihadistes dans le Sahel. Au Soudan du Sud, tous les passagers et membres d'équipage de l'avion de ligne qui a pris feu hier dans le nord-ouest du pays ont survécu à l'accident. L'accident a fait 37 blessés, dont un seul resté encore hospitalisé ce mardi. Aucun mort, a indiqué le ministre de l'Information de l'État de Wau. Selon des sources concordantes, l'appareil de la compagnie sud-soudanaise Supreme South Airlines a heurté un camion de pompiers alors qu'il était en phase d'atterrissage. Le premier ministre somalien Hassan El-Khedr a nommé un gouvernement de 26 membres, dont 6 femmes. Un ancien journaliste de la BBC occupe le poste de ministre des Affaires étrangères. Le Parlement doit approuver la nomination des membres du gouvernement. Un processus qui a obéi en équilibrage clanique pour satisfaire les différents groupes ethniques du pays, déchirés par une instabilité politique et militaire depuis 1992. Par ailleurs, un attentat à la voiture piégée a fait 5 morts ce mardi.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Hors du continent, l'administration Trump attire de nouveau l'attention par une mesure d'interdiction visant cette fois les ordinateurs portables et tablettes qui ne seront plus admis en cabine sur les vols de plusieurs compagnies aériennes vers les États-Unis. Les explications de Gabi Dorsil.
Cette mesure affecte environ 50 vols quotidiens de 9 compagnies en provenance de 10 aéroports de pays arabes et de la Turquie, tous alliés ou partenaires des États-Unis. Le gouvernement de Donald Trump invoque un risque d'attentat terroriste et accorde à ses compagnies 4 jours, à partir de ce mardi 7h GMT, pour qu'aucun passager ne rentre en cabine avec des appareils électroniques plus gros qu'un téléphone portable. Les laptops et autres engins électroniques devront voyager dans la soute à bagages. Washington n'a pas fourni d'explication, mais les journalistes parlent d'une menace provenant du groupe Al-Qaïda dans la péninsule arabique, très actif au Yémen. Cette décision du secrétaire à la sécurité intérieure John Kelly intervient dans la foulée d'une interdiction temporaire d'entrée sur le sol américain affectant les ressortissants de 6 pays majoritairement musulmans ainsi que tous les réfugiés, une mesure bloquée jusqu'à présent par la justice fédérale.
Et le Canada, qui à son tour examine la possibilité d'imiter les États-Unis et le Royaume-Uni et d'interdire les ordinateurs portables et tablettes en cabine des avions de compagnie du Moyen-Orient. C'est ce que vient d'indiquer le ministre des Transports Mark Garneau au Canada. Le président américain Donald Trump a prévenu les élus républicains qu'ils risquaient de perdre leur majorité au Congrès s'ils votaient contre la réforme de l'assurance maladie dans 2 jours. M. Trump s'est déplacé ce mardi au Capitole pour inciter les 237 membres républicains de la Chambre des représentants à tenir la promesse électorale d'abroger et de remplacer Obamacare lors du vote prévu ce jeudi. En Haïti, les députés approuvent le nouveau gouvernement après 19 heures de discussion. Les élus ont tiré à boulet rouge sur le projet présenté par le premier ministre qui manque de détails sur son financement. Les explications d'Anastasie Toudiech.
Guy Lafontan, le nouveau chef du gouvernement haïtien, a répondu aux questions toute la nuit avant d'obtenir le feu vert des 95 députés. 6 députés ont voté contre son projet de politique générale et 2 se sont abstenus. La semaine dernière, le Sénat avait offert son vote favorable. Le pays a un nouveau gouvernement plus d'un mois après l'investiture du président Jovenel Moïse. Médecin inconnu de la scène politique, M. Lafontan a formé une équipe de novices avec quelques technocrates. 18 nouveaux ministres, dont 5 femmes, vont donc se mettre au travail. Face à une inflation qui dépasse les 14% et une dévaluation effrénée de la monnaie nationale depuis 4 ans, le Premier ministre prône une rigueur budgétaire et la lutte contre la corruption. Vous promettez des routes, des écoles, des hôpitaux, de l'électricité, et d'où viendra l'argent ? Se demande Kourolo Loiseau, député de la petite ville de Dame-Marie, ravagée par le cyclone Matthew en octobre.
Les forces irakiennes ont repris du terrain dans leur combat contre le groupe État islamique dans l'ouest de Mossoul. L'armée irakienne a déployé des francs-tireurs sur des immeubles de la vieille ville pour cibler les djihadistes. Après avoir reconquis fin janvier la partie orientale de Mossoul, les forces irakiennes cherchent depuis le 19 février à reprendre l'ouest de la ville. Israël a annoncé avoir arrêté un Gazaoui accusé d'avoir détourné des fonds d'un organisme officiel turc au profit du Hamas. Il s'agit de la troisième organisation visée par de telles accusations de l'État hébreu. Mohamed Murtaja, coordonnateur dans la bande de Gaza de la Turkish Cooperation and Coordination Agency depuis 2012, a été arrêté le mois dernier. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique en Afrique, on en parle tout de suite dans la Minute Éco, présentée ce soir par Jacques Aristide.
Réinventer un nouveau business model africain, c'est l'appel lancé à Genève lors de la 5e édition du Africa CEO Forum. Plus de 1100 participants de 43 pays, dont 40 ministres et 2 chefs d'État, prennent part à ce rendez-vous annuel qui prend fin aujourd'hui. Pour Amir Ben Yamed, président et fondateur du Forum, il est urgent de repenser le business model africain car la croissance moyenne sur le continent ne cesse de tomber. Et plus inquiétant encore, d'après lui, les deux premières économies du continent, le Nigeria et l'Afrique du Sud, sont notoirement sinistrées. À cette occasion, le Tanzanien Mohamed Dewji du groupe Mohamed Enterprise Tanzania a remporté le prix CEO of the Year et la Sénégalaise Anta Babacar Ngom Batili de l'entreprise Sedima a été élue Young CEO of the Year. 24 millions d'euros pour accélérer l'électrification du continent africain, un projet qui s'insère dans le cadre de Electrify, une initiative de financement de l'Union européenne. Elle vise à améliorer l'accès aux énergies renouvelables, notamment dans les régions rurales mal desservies. 1 million de foyers africains devraient ainsi en bénéficier. Plus de 30 000 jeunes sénégalais vont bientôt recevoir une formation afin de développer les compétences dont ils ont besoin pour obtenir un emploi ou monter une entreprise. Il s'agit du projet Amélioration des performances de travail et d'entrepreneuriat au Sénégal qui se concentre sur 200 écoles du secondaire et 50 écoles de l'enseignement et de la formation technique et professionnelle dans 6 des 14 régions du pays. Le projet, à hauteur de 15 millions de dollars, va s'échelonner sur 5 ans.
À présent, la page des sports avec Nicolas Pinault. Nicolas, bonsoir.
Bonsoir Abdelrahman, bonsoir à tous.
La Côte d'Ivoire a un nouveau sélectionneur.
Oui, c'est l'ancien international belge Marc Wilmot qui a été nommé sélectionneur des éléphants. Il succède au français Michel Dussuyer, remercié après son échec dès la phase de poule de la Coupe d'Afrique des Nations en 2017. C'est la première aventure africaine de Wilmot, sélectionneur des Diables Rouges de Belgique de 2012 à 2016. Wilmot, 48 ans, avait été limogé à la suite de l'élimination des Belges en quart de finale de l'Euro 2016. On écoute tout de suite le vice-président de la Fédération Ivoirienne de Football, Sori Diabaté.
Comprendre que c'est quelqu'un qui a quand même fait 3 ans comme adjoint en Belgique et puis 4 ans avec l'équipe nationale. Et nous avons vu sa progression avec l'équipe nationale de Belgique. On a vu comment il a pu faire évoluer ses équipes, qui est passé de la 53e place en 2012 à la première place au classement FIFA. On a vu comment il a intégré des jeunes joueurs dans son équipe, parce que ça, c'est ce que nous recherchons. Parce que nous sommes dans une phase de reconstruction. Il y a des anciens qui sont là, qui vont partir. Il va falloir intégrer des jeunes joueurs dans notre équipe nationale. Et ça, il a réussi en Belgique, très bien. Deuxièmement, c'est un ancien footballeur qui a la connaissance de la compétition de haut niveau. Donc, pour nous, il est important que nous puissions nous qualifier pour la Coupe du Monde. Pour le football ivoirien, pour le niveau que nous avons, pour la génération que nous avons aujourd'hui, que nous sommes en train de bâtir, parce que ces grands rendez-vous vous donnent beaucoup plus d'enseignements. Deuxième objectif, c'est la qualification pour la CAN 2019, dont les premiers matchs commencent déjà en juin.
Un champion du monde allemand vient tenter l'aventure aux États-Unis.
Oui, l'ancien capitaine de l'Allemagne, Bastian Schweinsteiger, a signé en faveur du Chicago Fire. Il va donc quitter Manchester United pour rejoindre l'AMLS, le championnat nord-américain, la Major League Soccer. Le champion du monde 2014, 121 sélections, 24 buts, âgé de 32 ans, est en attente de visa. Il devrait se rendre aux États-Unis la semaine prochaine pour passer la visite médicale et signer son contrat, précise le Chicago Tribune sur son site internet.
On termine par la NBA, le championnat de basket nord-américain.
Les Golden State Warriors, emmenés par Klay Thompson et Stephen Curry déchaînés, ont montré les muscles hier à Oklahoma City, étouffant le Thunder et sa machine à triple-double Russell Westbrook, une victoire 111-95. L'autre choc de la soirée concerne la conférence Ouest. Il opposait Houston à Denver sur leur parquet et grâce à un James Harden héroïque, les Rockets se sont sortis in extremis de ce piège, une victoire 125-124.
Merci Nico. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. À présent, les dossiers du jour. En République démocratique du Congo, Jean-Marc Kabound, secrétaire général de l'UDPS, principal parti d'opposition, s'est retiré des travaux du dialogue conduit par les évêques catholiques. Que signifie son retrait? Alors que d'autres membres de son parti et de la plateforme au rassemblement continuent à y siéger. Suivons cette analyse du leader du RCD-KL, Ernest Kiaviro, au micro d'Eddie Sango.
On sent qu'il y a de la volonté de ne pas avancer en mettant en avant des petits prétextes. Et ça, c'est qui a énervé. Il a aussi commis une erreur. Parce que pour faire une action pareille, quand il est membre du rassemblement, ça aurait été beaucoup plus efficace et beaucoup plus compréhensible à la base et dans le monde entier. C'est Kabound qui a rendu. Et démontrer le rassemblement et que la décision de l'attitude à adopter soit prise collectivement.
N'est-ce pas là faire le jeu du pouvoir parce que ça va prolonger les travaux du dialogue?
Non, je pense que le pouvoir a besoin, et c'est là, même le président de la CENCO l'a dit dans un discours officiel, c'est la pression. Mais cette pression ne peut pas se faire en ordre discuté. Je pense que le pouvoir a besoin de pression. Et c'est une opinion partagée. Mais on ne peut pas dire que c'est parce que quelqu'un est sorti que le temps va continuer. Il n'y a pas que cela. Si on arrivait à résoudre ces problèmes, ils inventeront un autre. Quand, par exemple, ils refusent que les rassemblements rencontrent les chefs de l'État sans être réunifiés, tout en finançant la division. Donc, on comprend qu'il y a une mauvaise foi et des gens qui sont habitués à la pression et à la malice ne peuvent céder qu'à une véritable pression. Évidemment, nous ne pouvons pas jeter les jeunes gens dans la rue où il y a des militaires qui peuvent tirer. Et nous avons vu des cas extraordinaires où il se dit du président qui tire sur des civils au milieu de la journée. Maintenant, on peut y aller avec des questions telles que les villes mortes, des rejets de cette situation, mais ça ne sert à rien de continuer les travaux pour les faire continuer. La population exprime oralement. Ce que je reproche à Kabound, c'est de l'avoir fait seul, et donc ça a moins d'efficacité, ça a une raison valable.
Comment comprendre que M. Félix Tshisekedi et les autres membres du rassemblement continuent à siéger à ces dialogues? Est-ce que cela n'est pas une scission?
Réellement, il y a des problèmes au niveau de l'UDPS, mais dans tous ces cas-là, le rassemblement a à gagner, à travailler chaque fois ensemble. Il y a un encerclement des opportunités au niveau même des travaux de la CENCO. On se rend compte que les dissidents, entre guillemets, du rassemblement, les gens qui ont allié à l'EIA et la MP sont tous en train de tirer sur les rassemblements dans le sens de faire traîner les choses et d'empêcher l'application de l'accord.
C'était Ernest Kiaviro du RCDKL avec Eddie Isango.
Restez branchés 24 heures sur 24 sur VOA Afrique à Bukavu en RDC sur 97.4 FM.
Au Tchad, un comité technique tripartite a été mis en place. Objectif, examiner les conséquences socio-économiques du bras de fer entre l'État et les syndicats et de faire des propositions pour l'instauration d'une paix durable, d'une paix sociale durable dans le pays. Pour une bonne partie des travailleurs, la plateforme syndicale a cependant capitulé face au gouvernement. N'Djamena André Kolmajingar.
Ce comité technique a pour mission de poursuivre les négociations avec les deux parties, plateforme syndicale et gouvernement, sur les deux points de revendication sur les 7 qui n'ont pas été résolus sous la médiation du Comité national de dialogue social. Ces deux points sont l'annulation de la loi 32 portant restriction de l'exercice du droit de grève au Tchad et le retrait du décret 687 portant réduction des primes et indemnités des agents de l'État. Madame le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Madeleine Halingué, parle de l'importance de la mise sur pied de ce comité technique.
La pertinence de ce comité technique est de vraiment officialiser, formaliser, d'élargir. Nous sommes bien sûr en train de négocier point par point les aspects de cette crise, les moyens et les conditions pour pouvoir la juguler. Mais je crois que l'important, c'est de vraiment projeter le Tchad vers une instauration d'une paix sociale durable. Le comité technique se réunisse et chacun représente un groupe particulier pour la négociation et à chacun de prendre la responsabilité.
Pour la base, les responsables de la plateforme syndicale se sont fait piéger par le gouvernement.
Les syndicats ont fait une erreur. S'ils m'en ça, ils peuvent les endormir et ils ne savent pas.
J'appelle tous les fonctionnaires, tous les étudiants, afin que tous viennent faire un sitting au niveau de la place de la nation pour que Davis sorte du palais, vienne les rencontrer et qu'ils trouvent une solution. Un pays démocratique qui n'a pas droit à la grève, s'il vous plaît.
Il faut que les syndicalistes aussi savent que c'est un échec. Ils sont en train de créer les choses, c'est pas normal.
Gounou Vaima Ganfar est secrétaire général de l'Union des syndicats du Tchad, membre de la plateforme, a souligné que la signature de ce protocole d'accord est un acte de bonne foi dans toute négociation.
En matière de lutte, il y a mille et une stratégies qu'il faut adopter. Donc, nous sommes conscients de ce que nous faisons. On nous jugera à la fin. Ces ministres là disent qu'ils n'ont pas le mandat de résoudre les problèmes. Mais qu'est-ce que nous pouvons faire? Avançons un peu. Quand le premier ministre même sera dépassé, on ira vers le président.
Pour Mahamat Nasradine Moussa, secrétaire général de la Confédération indépendante syndicale du Tchad, ce protocole d'accord n'est pas définitif.
Ça, c'est un protocole partiel. Nous avons donné un délai de grâce d'un mois pour que le gouvernement trouve une solution aux deux points qu'on n'a pas pu trouver une solution. Mais passé ce délai, la plateforme est dans l'obligation de mettre en cause le protocole d'accord que nous avons signé avec le gouvernement.
André Koduma Dingar Ndjamena pour VOA Afrique.
VOA Afrique, Ndjamena, c'est 93.1 FM au Tchad.
Au Sénégal, l'usage des réseaux sociaux est en pleine mutation. Plus que de simples plateformes de distraction, Facebook, WhatsApp et autres applications sont devenues de véritables moyens de sensibilisation et d'action sociale. Reportage à Dakar de Seydina Abagay.
À Dakar, des jeunes étudiants ont choisi les réseaux sociaux pour former une structure d'entraide. Fabore Cissé, membre fondateur de l'association Diapo Diapole, explique leur mode de fonctionnement.
Au Sénégal, la communication coûte excessivement cher. C'est pourquoi on a l'habitude d'utiliser les réseaux sociaux, à savoir WhatsApp, Facebook, etc. pour communiquer. On utilise ça pour convoquer les réunions, pour des débats d'idées aussi, parce qu'on peut avoir des idées. On se dit, eh ben, avant de se voir, on peut déjà y réfléchir ici, au niveau de cette plateforme WhatsApp. On en parle, on en discute et puis on essaie de voir quelles sont les meilleures solutions aux problèmes.
Formée à partir des réseaux sociaux, l'association Diapo Diapole a développé une véritable chaîne de solidarité.
C'est une ouvre sociale. On aide les gens, les enfants les plus démunis. Ceux qui n'ont pas de toit, on essaie de leur trouver un toit. Ceux qui, même dans les écoles, nous trouvons des gens qui ne parviennent pas à satisfaire leur scolarité. Et ben, dans ce cadre-là, dans ce sens-là, on les aide à payer leur scolarité, avoir des fournitures, des cahiers, etc.
Dans le même registre, des femmes leaders ont créé une campagne sur Facebook pour collecter 200 millions de francs CFA en faveur des malades du cancer. Awasek Sissoko en est l'une des initiatrices.
On a fait un groupe privé. Donc, on s'est bien concerté. C'est avec nos propres moyens. Par exemple, moi, si je me déplace avec ma voiture, les rendez-vous, le téléphone, c'est mon téléphone. Donc, voilà, parce que c'est un élan de solidarité. Ça veut dire que chacun donne ce qu'il a. Et donc, on a fait un plan de campagne. Ce sont les réseaux sociaux. C'est beaucoup plus viral. On touche beaucoup plus de monde.
En quelques mois, cette initiative citoyenne partie des réseaux sociaux a déjà porté ses fruits.
Et vraiment, on est vraiment content parce que les Sénégalais se sont vite sentis concernés, parce que le cancer touche presque maintenant, c'est vraiment un fléau et il faut vraiment aller à l'hôpital pour s'en rendre compte.
Au Sénégal, les réseaux sociaux sont devenus un moyen de communication de masse pour les acteurs de la vie sociale. Au-delà du caractère ludique, ils sont utilisés pour alerter l'opinion publique et mener des actions en faveur des nécessiteux. Sédina Abagay, à Dakar, pour La Voix de l'Amérique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. voaafrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur voaafrique.com. À tout de suite.
L'Université de la Californie du Sud accueille chaque année le Sommet africain sur l'économie et le développement qui réunit des dirigeants, experts et membres de gouvernements africains pour échanger avec leurs homologues aux États-Unis. Cette année, tous les participants à cette conférence ont été privés de visa. Reportage à Los Angeles de Michel Quinn sur une narration de Claire Morin-Gibourg.
Le sommet économique africain est généralement une occasion pour les entrepreneurs et les chefs d'entreprise d'enrichir leur réseau pour renforcer les échanges entre les États-Unis et l'Afrique. Cette année, l'organisatrice de l'événement, Marie Flowers, est très déçue.
Habituellement, 40% des personnes que nous invitons n'obtiennent pas de visa. Cette année, 100% des gens ont été rejetés. Aucune délégation de pays ne peut venir. C'est triste et décourageant.
C'est la quatrième édition que Marie Flowers organise, mais cette année, aucune ambassade américaine n'a délivré de visa à la centaine de personnes qui devaient venir de Sierra Leone, de Guinée, du Ghana, du Nigeria, de l'Éthiopie ou d'Afrique du Sud. Marie Flowers ne cache pas sa déception.
Ce genre de choses rend la situation très difficile et il est quasiment impossible pour nous d'y travailler.
Elle n'a aucune idée pourquoi les visas ont été systématiquement refusés cette année. Mais elle soupçonne que les décrets migratoires de la nouvelle administration Trump ont rendu la situation encore plus compliquée. Elle a interpellé plusieurs avocats et législateurs, y compris l'ex-députée Diane Watson.
Il y a des ambassadeurs qui étaient censés venir à ce sommet et qui ont été privés de visa. Leurs demandes de visa ont été rejetées. Comme vous le savez, sous l'administration actuelle, ils limitent le nombre de personnes venant du continent africain vers les États-Unis. Ils leur refusent les visas.
Madame Watson affirme avoir contacté le département d'État pour obtenir des informations, mais le département d'État n'est pas autorisé à discuter au cas par cas. Mais dans le monde entier, des témoignages font état de refus de visa par les autorités américaines, même s'il est difficile de vérifier toutes ces informations avec certitude. Les données du département d'État ne sont disponibles que jusqu'à l'automne 2016. Nous retrouvons Marie Flowers.
Je dois dire que la plupart d'entre nous estimons que c'est une discrimination faite aux Africains. Nous en avons fait l'expérience à plusieurs reprises. Les personnes rejetées sont des hommes d'affaires qui ont des liens avec le continent.
Beaucoup de personnes espéraient faire des affaires lors de cette conférence, mais peu d'activité a eu lieu cette année. Les organisateurs espèrent ne pas avoir à jeter l'éponge. Le décret migratoire de Donald Trump ne s'applique qu'aux trois pays africains, la Libye, la Somalie et le Soudan. Il est encore difficile de savoir pourquoi les refus de visa ont été multipliés sur le continent.
Salut les amis, Roger Montou, la voix de l'Amérique. Restez branchés chaque mardi dans l'émission RM Show entre 20h et 21h, temps universel. Au menu, antenne libre, des sujets, débats. RM Show donne la parole aux auditeurs de la VOA. Ne ratez pas votre émission interactive. RM Show vous dit Peace Africa.
C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À la mise en onde, il y avait Georges Léonard Sagnon. À la console, Jorniak. Présentation, Abdourahman Dia. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook. Rendez-vous également sur notre site internet voafrique.com pour l'actualité 24 heures sur 24. Au revoir.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM. Kledou FM Bamako. Raga FM Goma. 96.5 Fraternité FM Parakou Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.